Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la première femme pirate en France. Une renommée telle qui lui a valu le surnom de Tigresse Bretonne. Au XIVe siècle, cette navigatrice audacieuse et haute dame de la seigneurie défia les conventions de son époque. Veuve après l'exécution injuste de son mari, elle se transforma en une redoutable corsaire, commandant sa propre flotte pour venger son époux. Et pour ça, nombreux sont les contemporains qui l'ont également surnommée la veuve sanglante. Des châteaux pillés, des navires coulés ou encore des villages incendiés, sa devise était d'ailleurs la suivante « pour ce qu'il me plaît ». Oui, vous l'aurez compris, ça ne va pas être très joyeux aujourd'hui. Et pourtant, c'est l'histoire d'une femme qui a construit sa propre légende. Elle va même aller jusqu'à combattre vaillamment les navires du roi de France. En somme, nous allons traverser ensemble une vie tumultueuse faite de batailles navales et d'intrigues politiques en tout genre. Sans plus attendre, cap sur les mers à la rencontre de la plus déterminée des femmes de son temps, j'ai nommé Jeanne de Belleville. Je vous embarque cette fois-ci au Moyen-Âge. Quand elle vient au monde vers 1300, Jeanne de Belleville grandit dans une famille de haute noblesse dans la magnifique région du Poitou. Et vous allez me dire, mais pourquoi, Hélène, on l'appelle la tigresse bretonne ? Eh bien, il se trouve que, à l'époque, la région du Poitou faisait partie du Grand-Duché de Bretagne. Jeanne, elle est fille unique de Létice de Parthenay et Maurice IV de Montaigu, seigneur de Belleville et de Palluau. Elle hérite d'une fortune colossale amassée grâce au commerce florissant du sel. Disons qu'elle commence avec un très bon bagage social, culturel et financier. Elle représente déjà la quintessence de l'aristocratie de son époque. Il est difficile de s'imaginer que la vie de la jeune Jeanne allait opérer un virage à 180 degrés. Elle a 6 ans lorsque son père meurt, et désormais aux côtés de sa mère, elle fait partie des rares enfants qui apprennent à lire et à écrire. L'éducation, c'est essentiel pour qu'elle devienne une châtelaine exemplaire. Et comme la coutume le veut au Moyen-Âge, Jeanne est mariée à l'âge de 14 ans à Geoffroy, seigneur de Châteaubriant, un noble fortuné de Bretagne, qui décède quelques temps plus tard en 1326. Mais c'est sa liaison avec Olivier IV de Clisson, un seigneur breton émérite et un marchand prospère, qui va précipiter Jeanne dans une suite de rebondissements et de drames. Le couple connaît une première épreuve hors mariage lorsqu'ils accueillent la petite Isabeau qui meurt malheureusement alors qu'elle n'est encore qu'un nourrisson. Olivier de Clisson devient à son tour veuf et le couple se marie en 1330. À la tête d'un petit empire féodal, Jeanne intègre l'une des familles les plus influentes de la France médiévale. De leur mariage d'amour vont naître 4 autres enfants. Pourtant, leur idylle ne va pas tarder à être sacrifiée sur l'autel de l'histoire. Jeanne, désormais appelée de Clisson, prend activement en charge l'administration de ses différentes terres lorsque son époux est envoyé à la guerre. Aujourd'hui, leur territoire comprendrait plus ou moins la Loire Atlantique. Olivier voue une confiance entière à sa nouvelle épouse quant aux affaires, et Jeanne se révèle même force de proposition dans cette nouvelle tâche. Elle va aller jusqu'à encourager la création de bordels pour combattre les violences sexuelles sur le domaine des de Clisson. On pourrait croire que l'histoire de cette dame de seigneurie s'arrête là, et pourtant, il ne faut pas oublier que ces événements se déroulent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques et d'enjeux politiques et territoriaux majeurs. Le XIVe siècle, c'est le début de la guerre de Cent Ans, en 1337, qui oppose la France à l'Angleterre. On se dispute la couronne de France, entre autres, entre Plantagenêt et Capétien. Mais il y a un autre conflit qui touche également le couple de Clisson, c'est la succession du duché de Bretagne. Vous allez comprendre pourquoi cette page est notamment importante pour Jeanne. Pour vous la faire courte, Jean III, duc de Bretagne, décède en 1341, sans héritier. Et en France, nous avons connu des guerres pour moins que ça. Deux prétendants revendiquent alors le trône. D'un côté, Jean de Montfort, demi-frère du défunt, soutenu par le roi d'Angleterre, Édouard III. Et de l'autre côté, Jeanne de Penthièvre, sa nièce et épouse de Charles de Blois, neveu du roi de France. Finalement, Olivier de Clisson se range avec les prétentions du clan de Blois-Penthièvre et donc du roi de France. Malheureusement, ce soutien n'aura aucune valeur pour la suite des événements. En 1342, lors du siège de Vannes, Olivier de Clisson est capturé par les Anglais et libéré quelque temps plus tard contre une faible rançon. Cet épisode suscite alors beaucoup de méfiance à son égard. Pourquoi libérer aussi facilement un prisonnier de guerre? On soupçonne en effet Olivier de sympathiser avec l'ennemi. Cette situation le discrédite fortement auprès de Philippe VI de Valois, et la suite ne va faire qu'empirer. Invité à participer à un tournoi de joute pour le mariage du fils du roi de France, Olivier est à peine arrivé qu'il est accusé de haute trahison. On l'emprisonne, et sans comprendre pourquoi, il est condamné à mort le 2 août 1343. Après avoir été décapité, sa tête est envoyée à Nantes et exhibée sur les remparts de la ville, au bout d'une pique. Cette exécution sommaire et humiliante, orchestrée par Philippe VI de Valois, est le point de départ de tout ce qui va suivre. Jeanne de Belleville apprend rapidement la nouvelle et accourt à Nantes. Elle décide d'amener avec elle ses deux fils devant la tête de leur père pour les inciter à jurer vengeance. Ivre de rage et profondément indignée par l'injustice infligée à son époux, Jeanne, pétrifiée devant ce spectacle, ne s'enfuira pas et ne pliera pas. Et c'est ainsi que la légende de la tigresse bretonne ou encore de la veuve sanglante commence. Comment peut-elle s'y prendre pour faire payer au roi de France ce coup de poignard dans le dos? Jeanne monte alors sur pied une stratégie. Elle s'empresse tout d'abord de récupérer la tête d'Olivier de Clisson pour la remplacer par une autre. Elle dépense même toute sa fortune accumulée dans une campagne guerrière et réussit, grâce à son autorité naturelle, à rallier de nombreux seigneurs puissants à sa cause et fidèles de son époux. À la tête d'un nouvel escadron, Jeanne se lance ainsi dans une série de raids punitifs, destinés à déstabiliser les partisans de la famille Valois. Elle sème la terreur partout sur son passage et mise sur l'effet de surprise pour ravager et décimer des châteaux. Et elle se montre particulièrement à l'aise avec le commandement et la tactique militaire. Mais en raison de la trêve de Malestroit III, signée avec le roi d'Angleterre pendant la guerre de Cent Ans, Philippe VI de Valois ne peut pas intervenir directement pour stopper les expéditions vengeresses de Jeanne. Au lieu de ça, le roi de France confisque ses biens, la bannit de ses terres et exécute un à un ses bannerets pour chaque méfait qu'elle a commis. Mais s'il croyait qu'une telle humiliation suffirait, il ne se doutait sûrement pas que notre femme pirate audacieuse trouverait un autre moyen de sévir. Alors face à cette situation, Jeanne, devenue paria, change donc de stratégie. C'est sur la mer qu'elle ira désormais harceler le roi et prendre sa revanche. Et les côtes bretonnes et normandes deviennent alors le théâtre de ses exploits en mer. Lorsque les troupes du roi débarquent sur ses terres pour reprendre son château, Jeanne s'est déjà débarrassée de tous ses biens. Elle les a revendus pour acheter le navire de ses rêves, qu'elle baptise « Ma Vengeance », comme une funeste prédiction destinée au roi. Entourée de ses deux fils, elle prend la mer pour rejoindre les côtes britanniques et obtenir le soutien du roi anglais. Celui-ci accepte de l'aider par rivalité avec le roi de France et lui offre une flotte de navires supplémentaires. À leur tête, Jeanne frappe tous les bateaux qui portent une fleur de lys. À travers le royaume de France, on ne parle plus que des attaques barbares de la Lionne sanglante. On raconte même dans les ports qu'elle démembre ses ennemis pour qu'ils ne remontent pas à bord de leur embarcation. Disons que les marins sont à la fois effrayés et impressionnés par la force de caractère et les exploits de cette femme. Chose peu courante à l'époque, vous l'aurez compris, car au Moyen-Âge, il existait des chevaleresses ou encore des femmes d'armes, mais rares sont celles dont la renommée était aussi retentissante et violente. Face aux incessantes attaques de Jeanne, le roi de France ordonne à ses troupes de ratisser la Manche pour éliminer définitivement la menace. Dans une confrontation mémorable, Jeanne se retrouve coincée par 6 navires royaux lors d'une tempête. Malheureusement, elle perd son navire et une large partie de son équipage. Mais elle parvient à s'échapper avec ses fils et quelques hommes vers les côtes bretonnes. Désormais bannie du royaume de France, Jeanne n'a nulle part où aller. Mais notre héroïne ne s'avoue pas pour autant vaincue. La chaloupe dérive pendant une semaine, tout le monde est à bout de force, et malheureusement Guillaume, le plus jeune fils de Jeanne, succombe au voyage. C'est avec Olivier, le dernier de ses fils survivants, qu'elle atteint Morlaix, au large des côtes bretonnes. Et vous allez comprendre pourquoi le conflit de la succession du duché breton est important dans l'histoire de Jeanne. La ville de Morlaix soutient le clan des Montfort, allié de la couronne d'Angleterre. Notre pirate, à son arrivée, prend le parti de s'associer à Jeanne de Flandre, épouse de Jean de Montfort. Ensemble, les deux amis vont monter une opération pour exfiltrer celui-ci de la prison du Louvre, dans laquelle il croupit déjà depuis 4 ans. L'évasion est un succès, mais Jean de Montfort meurt peu après, alors que le petit groupe a rejoint l'Angleterre. Veuves toutes les deux et accompagnées de leurs enfants, les deux Jeannes vont chercher la protection d'Édouard III. Et quelques temps plus tard, Olivier, qui entretient des relations étroites avec le roi, est adoubé chevalier et promu au rang de connétable de France. La postérité veut qu'il soit le membre le plus connu de la famille de Clisson. On le connaît principalement pour sa cruauté au combat et son surnom de boucher. Et vous voyez, il y a des gènes qui tournent dans la famille. Mais revenons à Jeanne. En Angleterre, elle est accueillie avec cordialité. On retrouve même des traces dans les archives anglaises de son implication directe dans les réunions de stratégie militaire que conduisaient les Anglais au sujet du duché de Bretagne. Elle y est décrite comme notre chère cousine, la Dame de Belleville. Jeanne n'a désormais plus qu'un seul projet en tête. Restaurer le patrimoine qui lui a été confisqué injustement par le roi de France pour assurer l'avenir de son dernier fils survivant, Olivier de Clisson V. Elle fait alors la rencontre de Sir Walter de Bentley, lieutenant du roi en Bretagne, et l'épouse aux alentours de 1349. Ce mariage purement symbolique consolide son alliance avec la couronne d'Angleterre et lui permet de récupérer ses terres et d'en acquérir de nouvelles. Finalement, elle a réussi son objectif depuis le début. La vie rocambolesque de Jeanne de Belleville s'achève en 1359, alors qu'elle est devenue une femme influente et respectée. De noble dame à commandante pirate intrépide, elle a forgé son destin au-delà de ce qui lui avait été promis de vivre, au nom de sa devise « Pour ce qu'il me plaît ». Son épopée navale et politique font de sa vie un éclairage fascinant sur les rebondissements historiques du XIVe siècle. Puisse cette petite chronique faire perdurer la légende de cette personnalité féminine indomptable et pourtant mal connue du public. En somme, cette jeune noble reconvertie en terrible corsaire a fait ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande, même si il y a eu d'autres circonstances, vous l'avez compris. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de la fascinante Jeanne de Belleville. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une artiste visionnaire. De sa jeunesse à Helsinki, à la création emblématique des adorables Moomines, nous allons nous plonger dans l'univers enchanteur d'une personnalité qui a conquis le monde de la littérature et de l'illustration. En attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.